présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.
Porte qui s'est ouverte. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Madame est dans le salon.
Merci, je monte dans ma chambre.
Elle dit à Galien.
Pourvu qu'il ne s'enferme pas, vous serez venu pour rien.
Ça n'a pas d'importance, madame.
Mais
la porte s'est ouverte.
L'on voit apparaître un jeune homme grand, mince, dans les 20 ans, les cheveux courts, blonds, yeux bleus, visage sympathique et les traits très attirants. Il porte un costume de laine marron, clair, avec des pantalons de golf. C'est la mode, ce qui le rend juvénile et un peu tintin.
« Ah, vous n'êtes pas seul ?»
Elle lui dit « Venez, je vais vous présenter Monsieur Diap. »
Le jeune homme s'avance.
La mère lui dit « Voici mon fils Guillaume. »
Galien se lève. « Bonjour,
bonjour. » Elle dit à son fils. « C'est le fils de mes amis, une vieille amie d'enfance que j'ai rencontrée par hasard. Et comme je ne connaissais pas son fils, je lui ai dit de le faire venir. »«
Tiens,
assieds-toi un moment. »
Guillaume s'assoit de mauvaise grâce.
Sa mère lui demande « Tu veux du thé ?»«
Non merci, j'aime pas cette boisson. »
Sa mère lui dit « Tu veux autre chose ? » Non, merci. D'ailleurs, je ne reste pas, j'ai affaire. Sa mère lui dit. Monsieur Diap est président du groupe Jeune Tour. Le fils lui dit. Je connais pas ce groupe. Il a déjà joué où? Et il se met à rire. La lien aussi. La mère lui dit. Mais non, mon chéri, c'est un groupe d'hommes d'affaires. Il lui dit, je m'en doutais. Galien demande, pourquoi? Parce qu'avec un nom pareil, jeune tout et la dégaine que vous avez. La mère lui dit, sois poli. Galien dit à Guillaume, qu'est-ce qu'elle a ma dégaine? Rien, le costume et tout. Mais vous aussi, vous avez un costume, Guillaume lui dit. Je suis obligé, je suis à sec. J'ai que ça à me mettre. Ça vous va très bien. Vous vous foutez pas de moi. Bon, je vous laisse. Sa mère lui dit. Reste un peu. Tu tiendras compagnie à monsieur. J'ai à faire une course urgente. Il se lève. Non. Tu peux bien me rendre ce service. C'est ton invité. Occupe-toi-en. Ce n'est pas gentil. Galien se sent gêné. Il se lève et dit. Je crois que je ferais bien de partir. La mère lui dit, surtout pas, ce n'en est pas pour longtemps, j'ai des choses à vous dire. Guillaume lui dit, mais dis-le-lui de suite et laisse-le partir. La mère lui dit, sois poli, Guillaume, je m'en vais, à tout de suite.
Elle sort de la pièce en courant presque.
Guillaume soupire, s'assoit va chier et dit, alors, qu'est-ce qu'on fait? Et en faisant et la grimace, hausse ses épaules. Puis il prend un paquet de cigarettes dans sa poche et un briquet. Allume la cigarette et la met dans sa bouche. Galien, sans vraiment réfléchir, se penche et lui enlève la cigarette de la bouche. Guillaume est surpris. Galien écrase la cigarette dans le cendrier. Guillaume ouvre la bouche pour parler. Il lui met le doigt dessus et lui dit « Tu fumes trop. C'est pas bon pour un chanteur. C'est pas bon pour la voix. » Guillaume lui dit « Et Gainsbourg, tu n'es pas lui. Et lui aurait eu une meilleure voix s'il n'avait pas fumé et aurait vécu plus longtemps. » Guillaume hausse ses épaules. « Ça, c'est toi qui le dis. » Galien lui dit « C'est certain. Et puis, pourquoi est-ce que tu fumes ?» Parce que ça me détend, je me sens bien, et c'est plus facile pour composer. Galien lui dit, je vois, tu crois que prendre certaines choses, ça te facilite ta création. Beaucoup d'artistes croyaient, et puis se sont aperçus que c'est faux. Tiens, regarde Verlaine. Pour lui aussi, sans absinthe, pas de création. Pourtant, plusieurs fois dans sa vie, il a été obligé d'arrêter de boire. Et malgré tout, il a continué à écrire. Et même, il écrivait plus et mieux sans alcool. Alors tu vois, Guillaume lui dit, ça c'est toi qui le dis. Compare sa biographie et les dates de ses œuvres et tu verras. Guillaume lui dit, bien et alors, avec moi, ça fait quelque chose. Il soupire. Le regard mauvais, reprend une cigarette. Galien lui dit, la drogue te donne un bien-être, une certaine assurance, tu te sens mieux dans ta peau pendant qu'elle fait l'effet, mais elle ne t'apporte pas le génie de la création. Ça, tu l'as déjà en toi. Un drogué qui n'est pas artiste ne le devient pas. Ou s'il le devient, c'est pour évacuer les démons de la drogue. Il fait des choses sombres, obsessionnelles. Il est incapable de vraiment s'exprimer. Guillaume lui dit, « Bon, ça suffit. Si je veux fumer et boire, je le fais. Et ça n'emmerde personne. » Galien lui dit, « Si ceux qui t'aiment, ils haussent ses épaules. Qui? Ma mère? Et encore? C'est parce qu'elle a honte. Et ton père? Il est mort depuis longtemps. Je suis navré. Pas de quoi. » Galien lui dit, mais tu es jeune, tu as tes œuvres. Le jeune lui répond, dans tout ce fatras artistique de notre époque, combien d'œuvres vont rester à la postérité et combien de chefs-d'œuvre ignorés? Que seront nos chefs-d'œuvre? Galien lui dit, tu as raison, il doit y avoir des chefs-d'œuvre et des auteurs ignorés. La preuve, on en trouve de temps en temps. C'est comme ça. Il est vrai, c'est qu'à notre époque, il y a de plus en plus de créations. Comment se retrouver dans tout ça? Et les contemporains s'y perdront, se tromperont. Guillaume lui dit, des fois j'ai envie de tout laisser tomber, mais quelque chose me force. Galien lui dit, ne laisse surtout pas tomber, et dis-toi bien que si l'on crée, c'est pour la création. Et si on n'est pas reconnu, pour le moment, on le sera peut-être un jour. Guillaume se lève et dit, bon, ça va, j'ai quelque chose à faire. Galien lui dit, bien, il se lève aussi, tout dépité de n'avoir pu faire ou dire ce qu'il fallait. Il pense à la pauvre mère qui se morfond. Tu es si pressé, ce que tu as à faire? Oui, allez, je dois te quitter. Galien lui dit, bon, eh bien, je te laisse. Et il suit Guillaume qui marche à grand enjambé vers la sortie. Il ouvre la porte et dit, mais je croyais que vous deviez attendre ma mère. Galien lui dit, non, je ne peux pas l'attendre comme ça. Vous lui direz, avant que je suis parti, que je reviendrai la voir plus tard. Bon, comme vous voudrez. Il sort de la pièce. Guillaume le mène vers la sortie. Et ouvre la porte. Bien, au revoir, à bientôt. Oui, au revoir. Et il se sauve. Guillaume monte les escaliers en courant. Galien le voit monter les escaliers et sort de l'appartement. Une fois dehors, il se dit, c'est raté, mais c'est peut-être mieux comme ça. J'étais très bon avec lui, sans arrière-pensée. Tout en marchant, il se dit, mais peut-être est-ce une erreur, en cherchant à le séduire comme je le rêvais, il y aurait peut-être eu une relation. Et il aurait voulu me revoir, le besoin de me revoir. Quelquefois, une mauvaise pensée peut aboutir à une bonne chose, tandis qu'une bonne peut faire le contraire. Et il continue sa route. N'ose pas téléphoner à la pauvre mère. De toute façon, elle a dû se rendre compte d'elle-même que c'était raté. Et puis tant pis, n'y pensons plus. Jouer au bon samaritain, cela n'est pas permis à tout le monde. Les jours passent. La mère n'a pas téléphoné non plus. Guillaume, pris par son travail, oublie de le faire. Ou lorsqu'il y pense, c'est trop tard pour téléphoner. Et il se promet de le faire pour le lendemain. Le soir, avant de se coucher, il aime bien faire une petite marche pour se détendre et se retrouver seul. Il est constamment entouré de Danfort, sa secrétaire et de tant de gens qui l'a à voir, pour donner son accord à des affaires que Danfort a déjà dit oui. Il a envie de lui dire « Pourquoi me demandez-vous mon accord puisque vous l'avez déjà dit ?» Vous étiez d'accord. Quel système idiot. C'est pire que dans une administration. Donc le soir, il marche un peu pour oublier tout ce qui l'irrite. Il va dans des endroits calmes, surtout des boulevards, car il y a moins de bagarres et de tuileries. Les gens sortent peu, mais ceux qui sont dehors, il faut s'en méfier. Galien pense à Didier. Il l'aimait beaucoup et se demande comment il aurait pu faire pour mieux l'aider. Et Didier, il doit y en avoir des milliers qui traînent comme ça et qui risquent leur vie. Il marche en étant dans ses pensées. Tout à coup, il entend courir derrière lui et le dépasse. Un jeune homme qui reconnaît comme étant Guillaume. Guillaume ! Le jeune homme continue à courir. Il semble poursuivi par un autre jeune homme, grand brun en jean. Il les voit courir tous les deux. Le jeune rattrape Guillaume. Et, par derrière, lui tire sa veste pour le faire arrêter. Guillaume se retourne d'un geste brusque et veut se dégager. L'autre le tient bien ferme. Tient bien fermement. Guillaume fait de grands gestes et crie « Lâche-moi !» Galien court à eux. Le jeune donne un coup dans la poitrine de Guillaume qui tombe à terre. Le jeune lui tombe dessus. Galien le prend par sa veste, le soulève et l'envoie tomber plus loin. Il se relève et court. Guillaume se relève. Merci. Qu'est-ce qu'il te voulait ? Fous-moi la paix. Et se met à courir. Galien lui court après. Guillaume prend de la distance et tout à coup, il entre dans une allée. Galien y va aussi. L'allée est petite, sombre, étroite. L'escalier de pierre avec rampe de fer. Il ne le voit pas. Guillaume, tu es là ? Il se dit qu'il a dû aller chez quelqu'un. Guillaume, c'est moi, Galien. N'aie pas peur, je veux t'aider. Rien. Puis, il a entendu un léger bruit qui vient du fond de l'allée. Galien s'y dirige. Il n'y a pas de lumière. C'est un renfoncement. Là, il voit Guillaume, le dos contre un portail qui mène aux caves. Il fait le geste de se sauver. Mais Galien a été plus rapide que lui et le maintient par le bras. « Lâche-moi ! Dis-moi ce que tu voulais. Ça ne te regarde pas. Lâche-moi ! Ou je crie !» Galien lui dit. « Si tu cries, tu n'auras pas un billet. » Guillaume, surpris, interrogateur, lui demande pourquoi ? Parce que je veux t'aider. Tout le monde dit ça. Et c'est combien ? Galien hésite et dit 500. Bon, je vois ce que tu veux. Galien lui dit je veux, c'est savoir ce que l'autre te voulait. Guillaume lui dit ça ne te regarde pas. Oui. Tu as raison. mais je veux t'aider. Et comment pourrais-je si je ne sais rien ? Guillaume lui dit. Je n'ai pas besoin de ton aide. Donne-moi l'argent et je m'en vais. Tu m'as aidé comme ça. Galien lui dit. J'aimerais mieux faire. Guillaume lui dit. Ça suffit. J'en ai eu assez pour... N'en rajoute pas. Galien lui dit. Tu ne veux vraiment pas que je t'aide ? Non, allez, laisse-moi tranquille. Galien soupire et lui dit. Bon, et bien tant pis. J'aurais voulu t'aider financièrement pour que tu puisses créer tranquillement et en te donnant une petite pension, en te prêtant un petit studio pour que tu puisses créer tranquillement. Et quoi en échange ? Que tu fasses des chansons, le mieux et le plus que tu peux. Guillaume, haut ses épaules, dit « Ma foi, c'est aussi bien que ce que je faisais. Ce que je faisais avec plusieurs personnes, je le ferai avec un seul. Voilà. » Galien lui dit « C'est d'accord ? Oui. » Galien lui demande « Qu'est-ce que te voulait l'autre ? Rien, je devais de l'argent. » Galien lui dit « On va chez moi, on arrange tout ça. » Guillaume ose les épaules et se dit « C'est mieux qu'avec un vieux. » Et ils sortent de l'allée. Une fois dehors, pour éviter les mauvaises rencontres, Galien hèle un taxi. Quelque chose ?
Non, merci.
Galien s'assoit en face de lui. Et lui dit, attention, ce que je te propose, c'est du sérieux. Tu vas me signer un contrat. Pour un nombre de chansons, et en échange, je te donnerai une pension et un logement. Cela te va ?
Oui, combien de chansons ?
Nous dirons un nombre suffisant pour prouver que tu as travaillé. Guillaume lui demande. Et la somme ?
Disons 5 000 francs pour le logement, l'eau, l'électricité, ce qui va se faire un salaire en gros de 8 000 francs. Et en plus, les chansons seront enregistrées à mes frais.
Bon, ça va. Guillaume prend une cigarette. Galien lui dit.
« Il faudra essayer d'arrêter. »
Il lui dit, « Là, tu vas un peu trop loin. C'est ma vie. »
Galien ne dit rien. Il se lève et lui dit, « Je vais préparer, si tu le permets, notre contrat. » Et il va vers le secrétaire pour prendre une feuille blanche.
Deux heures plus tard, ils ont signé. Guillaume lui demande « Il est où le studio ?»«
Pas bien loin d'ici. Viens. »
Et ils sortent de la pièce.
et, deux immeubles plus loin de celui de Galien, Galien le fait entrer dans un immeuble neuf, lui aussi. C'est au premier, très chic.
Galia va ouvrir la porte de droite.
Viens, rentre. Il rentre.
C'est un F2 moderne avec des meubles en bois et verre. Chambre, séjour, salle d'eau, WC, cuisine. C'est clair, propre. Ça te va? Oui, merci, c'est très bien. Galien lui donne les clés. Tiens. Et une enveloppe. Il y a le chèque dedans.
Et il le quitte sans rien dire.
Il faut bien que Lilio, maintenant, apprenne à vivre dans ce lieu, s'en empare, mette ses choses et apprenne à vivre autrement. Donnera son chèque en début de chaque mois. Les jours passent, il n'ose pas aller voir Guillaume. Il faut qu'il se sente vraiment chez lui, et bien. Il téléphone à sa mère pour lui expliquer le tout.
« Je ne sais comment vous remercier. »
Il lui répond. « J'aurai remercié le jour où votre fils sera guéri. Au revoir, madame. » Galien aimerait savoir comment ça se passe chez Guillaume. Il n'ose pas. Pourtant, il pourrait y aller. Parce qu'il a les clés, le double des clés, et c'est légal, car c'est un appartement meublé. Le propriétaire peut y aller quand il le veut. Comme c'est tout près de chez lui, il y passe souvent. Devant l'immeuble. Mais il y passe en vitesse. Il se dit, je suis idiot. Comment savoir s'il travaille et se tient comme il faut? C'est impossible. J'aurais dû, c'est précisé dans le contrat, que je devais lui rendre visite une fois par semaine. Maintenant, c'est trop tard. Il tombe sur Guillaume qui allait entrer chez lui. Il lui dit « Salut, tu voulais me voir ?»« Oui, comme ça. » Guillaume lui dit « Je viens juste. »
Guillaume a ouvert la porte de l'allée et lui dit « Entre. » Galien entre. Galien entre. Timidement, comme si je l'allais chez un inconnu. Entre. Ils sont entrés dans l'appartement.
Kalia se sent gênée, encore plus que si ce n'était pas chez lui. Mais ce n'est plus chez lui. Une autre personne y habite, vit, touche ces choses, fait des choses intimes et tout. Guillaume lui dit, « Allons au séjour, fais comme chez toi, mais ne fais pas attention au désordre. » Il y a des vêtements partout, en vrac, à terre, sur des chaises, vêtements et sous-vêtements, chaussettes, slips. Kalien voit qu'il met des slips taille basse marine. Cela lui fait quelque chose. Il y a aussi une guitare, un synthé, un micro-ordinateur, une chaîne hi-fi, des livres de partout, dans tous les sens. La pièce, qui lui paraissait très grande, lui semble toute petite. Guillaume lui dit, j'ai pas eu le temps de ranger, tu sais, le déménagement, écrire et tout. Tiens, assieds-toi.
Il prend un paquet de linge d'une chaise qu'il met à terre. Kalia s'assoit.
Guillaume se met sur le rebord de la table. Kalia lui demande, alors, comment va ta nouvelle vie?
Il faut que je m'y habitue. Ma mère voulait m'apporter mes repas. J'ai refusé. J'essaye de me faire de la cuisine. Ça prend du temps, même avec des boîtes de conserve.
Et tu fais des chansons?
Pour le moment, je cherche, mais rien. Ça viendra sûrement. Il faut que je me laisse m'habituer à tout ça.
Galien lui dit,
oui, bien sûr. Et tu fumes toujours autant? Guillaume lui dit, vois pas toi-même.
Il y a des cendriers pleins et des paquets de cigarettes vides, enfroissés à côté.
On ne peut pas s'arrêter d'un coup. Tu veux boire quelque chose?
Oui, tu as un jus de tomate?
Guillaume lui dit.
Non, mais j'ai du citron. Ça ira. Sucré? Non.
Et Guillaume sort pour aller à la cuisine.
Kalien essaye de se détendre un peu. C'est lui qui aide.
Oui, c'est lui qui aide. Guillaume revient avec une carafe de jus de citron et de verre. Il met sur la table.
Serre. Et dit, j'ai pas de glaçon. Galien lui dit, ce n'est pas grave.
Et Guillaume va s'asseoir à côté de Galien comme tout à l'heure.
Galien demande, tu vis seul? Guillaume lui dit, tu le vois bien? Tu n'as jamais eu de petite amie?
Si, mais ça n'a pas marché. Elle m'a mise à la porte rapidement.
Pourquoi?
Guillaume hausse les épaules et lui dit, « Comme ça, au lit ça allait, mais point de vue caractère, on n'avait rien à se dire. On passait des heures comme ça sans rien dire. C'était gênant. Et puis je fumais trop. Cela l'agaçait.
Et toi ?» Kalien lui dit,
« Moi, rien. J'ai trop de travail. Et puis je suis surveillé, tu ne peux pas savoir. »
Guillaume lui dit, mais ça t'empêche pas d'être ici avec moi?
Alors, tu peux tout aussi bien être avec une fille?
Kalien rougit et lui dit,
je suis sûr qu'ils doivent le savoir, mais ne disons rien.
Guillaume lui dit,
or les filles, rien?
Kalien rougit, si bien sûr,
mais quoi?
Rien?
Guillaume lui dit, dis plutôt que tu préfères les garçons.
Kalien rougit, Guillaume lui dit,
sois pas gêné, cela ne m'ennuie absolument pas. Maintenant, je sais pourquoi tu cherches à m'aider.
Kalien lui dit,
non, ce n'est pas ce que tu crois.
Je ne devrais pas te le dire. Promets-moi de ne rien dire.
Je le promets. Allez, accouche.
Eh bien, voilà.
Un soir, j'ai rencontré ta mère. Elle était mélancolique et même désespérée. J'ai été touché par elle. Elle m'a confié qu'elle ne faisait du souci pour toi. Guillaume soupire. C'est bien d'elle, ça. Et tu voulais aider la pauvre mère et pleurer. Galien lui dit. Oui. Mais en même temps, faut que je te dise, j'avais envie de te connaître. J'avais des pensées troubles. Voilà.
Guillaume lui demande. Et maintenant, tu as toujours des pensées troubles ?
Non, plus maintenant. Je ne sais pas.
Guillaume lui dit.
Je vois. Puisqu'elle t'a tout dit, tu sais que je ne fais pas que de fumer ?
Oui.
Et même le jeune qui me courait après, c'était parce que je lui devais de l'argent.
Tu lui devais beaucoup ?
Je lui dois toujours beaucoup, mais il a perdu ma trace. S'il me retrouve, je suis pris. De toute façon, j'ai besoin d'argent. Je ne peux rien faire sans. Tu dois me donner de l'argent.
Galien lui demande.
Tu en as ? Cela doit te suffire ?
Guillaume hausse ses épaules et lui dit.
Non ?
Alors ?
Galien lui dit. C'est non.
Guillaume écarte les jambes et se touche en lui disant.
Si tu veux, tu peux jouer avec moi.
Galien est troublé et regarde cette main qui se touche. Il est comme hypnotisé. Guillaume a un air coquin. Il lui prend la main pour l'attirer à lui. Galien, pris entre la tentation et son devoir, hésite et retire sa main. Qu'allait-il se passer si ce qu'il désire ?
Il se lève d'un bond et rouge de honte, il se tourne vers la sortie.
Guillaume lui court après et lui crie. Ne sois pas idiot, reviens, ce n'est rien, reviens.
Mais Galien ouvre la porte palière et sort.
Il descend les escaliers en courant.
L'air, le bruit les surprend. Il voit tout tourner. Il s'en retourne chez lui, un peu comme un œuf ivre, honteux, plein de regrets de ne pas avoir accepté. Mais que faire ?
Chez lui, il va s'enfermer dans sa chambre. Les oreilles qui bourdonnent, il voit toujours ce geste. Cela l'excite, cela l'énerve, n'en pouvant plus. Il descend son pantalon. Pour se soulager, il veut se masturber.
mais durant toute la nuit, il ne pense qu'à ça, ne veut que ça. Puis, le désir devient de la honte. Honte de savoir que l'autre a compris et qu'il le traite comme il devait l'être traité. Honte d'avoir failli tromper Philippe. Il se promet de ne plus revoir Guillaume. Il est trop dangereux, trop excitant. C'est une vraie pute. Il lui enverra son chèque par la poste. Quant à la mère, il lui dira que tout allait de bien se passer, qu'il se conduit correctement. Voilà. Mais malheureusement, le désir reste là. Il n'y a rien à y faire. Dans la maison Vimelior Bio où se trouve la famille Basile et Pierre-Max, il se passe de drôles de choses. Des gens disparaissent, on ne les revoit plus. Beaucoup de personnes ont des troubles. Ils ont mené à l'infirmerie et là, on leur fait des tests, des prises de sang, on leur injecte des produits. Les gens prennent des boutons, enflent, deviennent aveugles ou autres. Changent de voix, perdent les cheveux, vomissent beaucoup. Mystère. Une femme toute bleue demande « Qu'est-ce que j'ai, docteur ?» Le docteur, un petit gros à lunettes, lui dit: ce n'est rien, juste des réactions normales. Il faut que votre corps s'habitue à ce que vous mangez. Mais je n'ai mangé que des tomates. Je ne savais pas que les tomates allaient me donner du poil de partout et doubler mon poids. C'est normal, elles sont ultra-vitaminées. Avec de la viande de cheval. C'est des tomates carnivores qui en plus ont été peintes pour faire poli, joli, avec de la peinture métallisée. Cela donne un côté très joli et poli, lumineux, sous les lumières artificielles des spots de supermarché. C'est pour cela que j'ai trouvé si dur. Pour les rendre rondes et qu'elles soient moins fragiles, on les a mariées avec du caoutchouc. Comme ça, elles sont aussi résistantes qu'une balle de tennis. Mais moi, mon estomac, vous ne l'avez pas changé? Il a des difficultés à ingurgiter tout ça. Il lui dit: ne vous faites pas de soucis, nous avons pensé à tout. Nous allons vous mettre un estomac en plastique indégradable, pouvant tout broyer.
Comment?
Oui. Nous allons vous mettre un nouveau estomac fabriqué par les plastiques Omnium. Vous savez, ceux qui fabriquent les poubelles si résistantes. Votre estomac sera fait chez eux avec ce même plastique. Vous savez, vous aurez un estomac où vous pourrez manger n'importe quoi. Une vraie poubelle. C'est pour cela que nous avons demandé de le fabriquer au plastique Omnium. Les agriculteurs vont être heureux, les magasins aussi. Vous pourrez manger n'importe quelle saleté. Mais des saletés belles à voir et à toucher,
au goût plus ou moins de sel et de bicarbonate. Le bicarbonate, ce n'est pas pour vous faire digérer, mais pour activer le goût et cacher le goût véritable du produit synthétique.
Je veux retourner chez moi. Je ne veux pas qu'on m'opère.
Le docteur lui dit, « Allons, soyez raisonnable. Vous ne pouvez pas ressortir comme ça, toute bleue et grosse comme un dirigeable. De toute façon, tout le monde doit y passer. »
Même vous, docteur.
Moi, c'est différent. Je suis acheté une petite maison dans un endroit isolé et j'ai mon petit jardin.
Il tapote le bras.
Ouvrez la bouche et la langue toute verte. Il va falloir que je vous recolore la langue aussi.
Comment ?
Vous ne pouvez pas rester avec une langue verte.
Verte ? C'est à cause des tomates.
Sûrement, à moins que ce soit le lait.
Le lait aussi ?
C'est-à-dire que nos vaches donnent du colorant pour faire des yaourts aux fruits. Et là, elle n'a pas dû être assez rincée pour faire du lait blanc. Il a dû rester quelques gouttes de colorant. C'est très concentré. Il y a beaucoup de choses à faire avec vous. Vous êtes complètement teinturluré. Vous êtes marié ?
Oui.
Des enfants ?
Oui, trois.
Ils sont ici ?
Oui, mais je ne veux plus qu'ils restent ici. Je veux m'en aller.
Elle se soulève, mais ne peut pas, car elle est cinglée au lit.
Je veux m'en aller. Défaites-moi.
Le médecin lui dit, c'est impossible. Vous avez signé pour la vie ici. Et d'ailleurs, vous n'avez plus rien de personnel. Tout est à l'association. La femme s'excite. Enfin encore plus. Le médecin crie. Infirmière, vite, une piqûre calmante pour cette personne. Elle va être trop grosse pour la bosser et la mettre au frigo. Une grande femme sèche, les cheveux en chignon, revêche, vient avec une piqûre et un tampon. Elle se penche. En la piquant, elle dit au docteur,
il va falloir un sac à carton pour mettre le corps en morceaux et de la place pour le frigo.
La femme est effrayée de ce qu'elle a entendu, mais la piqûre en remède de cheval la calme. Elle est comme paralysée. Sa langue est lourde, ses membres aussi, ses yeux tombent. Elle aimerait hurler et se dit que c'est sa fin.
Elle entend encore, avec effroi, le médecin dire « Avant qu'elle ne grossisse trop, il va falloir la découper. Amenez le brancard !»«
Tiens, docteur !»
Elle aimerait hurler, mais elle est paralysée et lutte pour ne pas dormir.
Elle ne peut rien faire, ses membres ne lui répondent plus.
Elle entend tout, ne peut réagir, mais comme une morte. Elle entend le bruit du chariot.
On la désangle, soulève et dépose sur le brancard.
Le brancard roule. Malgré ses paupières fermées, elle voit les lumières du néon au plafond qui défilent devant. Le médecin lui dit, il va falloir plusieurs paquets. Elle doit avoir un sacré paquet de sang. Les intestins, les abats. Vous l'avez purgé ?
L'infirmière lui dit, oui, juste après son repas. Elle s'est bien vidée.
Il y a combien de temps ?
36 heures.
C'est bien.
Je m'y connais, docteur. J'ai été élevé à la ferme, le cochon toute l'année.
Première chose à faire, la mettre sous l'eau bouillante. Lui raser les cheveux et les poils. Puis la saigner. Lui, par-dessus, un baquet. Ne rien perdre du sang.
Bien, docteur.
Après, on la prend
et on enlève la peau. On la pend et on enlève la peau. Puis on découpe et on sélectionne. Le sang ou donneur de sang, les organes potables ou donneur d'organes, et quelques trucs pour clowner avec un autre.
Un cochon ?
Dit l'infirmière en riant. Docteur lui dit, si vous voulez, le cerveau on le garde pour l'ordinateur.
L'infirmière lui dit, ça ne vaut peut-être pas la peine. Elle ne semblait pas très intelligente, extraordinaire.
Que faisait-elle dans la vie ?
Elle faisait les ménages. Vous avez raison.
On en fera un clown de femme de ménage. Oui, sous-race. Tout ce qui n'est pas bon, on broye. Et on le vend pour le porter pour chien. Tout bénéfice.
La pauvre femme en a des sueurs froides.
Le brancard s'est arrêté. Le docteur dit,
aspergez la d'eau bouillante.
On la soulève comme un paquet, mise debout, tendue par plusieurs mains, et on la déshabille.
Le médecin dit,
regardez-moi, quelle chatte.
On la tient, on la mène dans un coin, on la maintient avec des sangles, et tout à coup, l'eau bouillante tombe sur elle.
Elle se met à hurler. Le médecin dit,
ne criez pas comme un cochon. Taisez-vous, idiote. Vous avez de la chance. On va vous clowner après votre mort.
L'infirmière lui dit,
vous la laissez crier. C'est bon pour le sang. Et n'oubliez pas, docteur, de la déposer vivante pour le sang.
La femme continue à hurler. L'eau s'arrête.
On la défait et on la dépose sur une chaise bien maintenue.
On lui coupe les cheveux, les poils des aisselles et le bas-ventre. Elle continue à hurler. Le médecin lui dit,
patientez, dans 5 heures, tout sera fini. On aura fini de vous déposer. Voilà.
On va vous pendre à un anneau.
Mettre sous vous un seau pour récupérer votre sang.
On va tout chauffer, l'air. Préparer les récipients pour mettre tout ce que vous avez dans le ventre.
Et ce sera fini. C'est pas plus difficile que ça.
Elle crie, hurle, essaie de se défendre. Mais non, elle ne peut pas. Ils sont je ne sais combien à la maintenir. Elle est menée, sanglée. On lui met une sangle autour du cou et on la pend dans le vide au crochet.
Couteau.
Elle hurle.
Essaye de se défendre, mais ils sont trop nombreux.
On ne sait pas combien qui la maintiennent. Elle est menée, sanglée. On lui met une sangle autour du cou et on la pend dans le vide au crochet.
Couteau.
Elle hurle, effrayée. Et elle sent une brûlure qui vient de haut en bas de son corps. On lui écarte cette entaille. Elle sent une main à l'intérieur de son corps. C'est horrible. On lui tire. On arrache. Une surface. C'est insoutenable. Elle semble
qu'elle perd connaissance. Elle crie de douleur et... elle entend le docteur dire... tout va bien, tout va bien. Vous tenez le coup. Vous voyez, c'est pas terrible que... c'est pas aussi terrible que ça. C'est bientôt fini. Encore 4 heures. Après, on s'attaquera au cerveau. Et puis voilà, ce sera fini, mon petit. Vous voyez, c'est pas si terrible que ça. Elle sent une grande douleur. Quelque chose qu'on arrache à l'intérieur d'elle-même. L'infirmière dit « Il tourne de l'œil. » Le docteur lui dit « C'est impossible. » En ce moment, elle ne peut plus. Elle lui dit « C'est une façon de parler, docteur. » Il lui demande « Le sang coule bien ?»« Oui, docteur. » « Du très bon sang à boudin. Quelle femme !»« Elle est encore en vie. » »«
Oui, vous voyez bien. Son corps bat. » Nous occuperons de la tête en dernier. Bien, docteur.
Ces braves et studieuses personnes, nous allons laisser finir leur travail en paix. Une fois que la chose est finie, le directeur de l'association, Monsieur de Sainte-Garde, fait venir la famille de la pauvre femme dans son bureau. Le père, les deux filles et le petit dernier.
Venez vous asseoir.
J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Votre femme, votre mère, Madame Boucher, vient de décéder des suites d'un cancer à l'estomac. Le mari, effondré, lui dit « Mais ma femme n'était pas malade. Elle avait juste une indigestion de tomates. » Le directeur lui dit « Justement, en lui faisant une radio, nous avons vu un cancer de la dernière extrémité. Il ne resterait plus rien de son estomac. C'était tout bouffé. Mon Dieu, et elle a beaucoup souffert, comme un cochon. »
Comment ?
Pas du tout, non, pas du tout. Je suis vraiment navré. Vous n'avez rien à faire. Les funérailles auront lieu demain après-midi. Et comme il est spécifié sur votre contrat, la personne sera incinérée. Condoléances. comme tous les soirs, Galien sort. Il fait un temps lourd, pénible. Tout à coup,